notre OTI nous a apporté un cadre conceptuel qui est assez simple, qui permet de distinguer trois choses au service de la preuve. C'est les moyens qu'on a mis en œuvre, des résultats qu'on a obtenus sur des objectifs opérationnels qu'on avait pu se fixer, et enfin l'impact qu'on a généré, c'est-à-dire un changement réellement provoqué sur une partie prenante.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Machine à Sens, un podcast 100% dédié aux entreprises à mission. Dans La Machine à Sens, nous allons à la rencontre de dirigeants, de managers de mission qui nous expliquent leur motivation et leur cheminement vers la société à mission, mais également des experts et des auteurs qui viennent éclairer un sujet social, sociétal ou environnemental. Je m'appelle Vivien Pertuzot et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Desnaux, cofondateur d'Allenvie, de Compagnie et de Biens Communs. Le lien entre ces trois entreprises ? Le CARE. Allenvie est une société créée en 2016 pour venir transformer le secteur de l'aide à domicile. Compagnie en est une émanation, puisque c'est le travail de formation qui à l'origine était destiné aux auxiliaires d'Allenvie qui aujourd'hui est accessible à tout le secteur. Biens Communs est la plus jeune des trois entités. Elle offre des logements aux personnes âgées, une sorte d'alternative aux EHPAD. Une sacrée diversification que Guillaume avait déjà commencé à détailler l'an dernier lors de notre première rencontre et sur laquelle il revient de nouveau. Dans cet épisode, Guillaume explique le chemin parcouru depuis un an en tant que société à mission et vous verrez, c'est assez impressionnant, notamment avec la création de Biens Communs et la parution de l'ouvrage La Société du Lien, ainsi que la restructuration de leur comité de mission pour le rendre plus efficace. Guillaume nous partage même son retour d'expérience du premier audit de l'organisme tiers indépendant qu'ils ont fait il y a quelques semaines maintenant. La nouvelle approche opérée sur le comité de mission et le cadre de réflexion initié par l'audit me semble très adaptée à pas mal de situations de sociétés à mission, donc vraiment écoutez ce podcast avec beaucoup d'attention. Et surtout, n'hésitez pas à contacter Guillaume sur LinkedIn, il y est assez actif et je suis sûr qu'il prendra le temps de vous répondre. Je vous souhaite une excellente écoute.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Vivien.
Ravi de t'accueillir sur le podcast de La Machine à Sens pour ce format un an après, puisque on a eu l'occasion d'échanger l'an dernier, mais c'était en retranscription écrite. Ravi de pouvoir t'accueillir pour le podcast en version audio cette fois-ci. L'idée c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé chez Allenvie depuis un an. Puis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais donner quelques actions un petit peu assez phares qui ont été menées dans le cadre de la mission d'Allenvie depuis un an ?
Alors, merci déjà pour l'invitation. Depuis un an, c'est vrai que c'est notre première 2021, ça a été notre première année pleine en tant que société à mission officiellement. Et je dirais que bon, nous, la mission est inscrite dans notre ADN depuis le début, donc je dirais pas que ça a changé notre manière de faire, mais on a déployé des projets qui ont vraiment plein de sens par rapport à notre mission, et je pense que le fait d'être structuré comme tel nous a aidé à le faire, à bien le faire. Donc on a notamment lancé Biens Communs, une activité d'habitat partagé et accompagné pour des personnes âgées en perte d'autonomie comme alternative à l'EHPAD. Et donc ça, c'était vraiment la vision que si on voulait faire changer notre secteur, on pouvait pas ne pas s'intéresser à ce qui se passe une fois que les gens ne peuvent plus rester à domicile. Et je pense que l'actualité montre qu'il y a des choses à changer, des nouvelles solutions à imaginer. Et donc, c'était une diversification de plus, mais on s'est lancé là-dedans, convaincu que c'était vraiment dans notre mission et qu'il fallait qu'on s'intéresse à ça. Et ça nous a permis aussi de nous intéresser aux enjeux aussi environnementaux liés à l'habitat, à la construction dans le domaine du grand âge, qui sont majeurs. Aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup de la maltraitance dans les EHPAD, mais il y a en plus un sujet environnemental parce que le monde des EHPAD, c'est aussi des sols qu'on artificialise, des constructions neuves, alors qu'il y a plein de bâtis existants au cœur des villes qu'on peut très bien aménager en habitat partagé pour des personnes âgées avec de l'accompagnement, du soin s'il faut, comme alternative à l'EHPAD et avec à la fois un impact écologique meilleur, une création de liens sociaux plus forte, une habitabilité meilleure. Et donc, on s'est aussi lancé là-dedans et ça rajoute une dimension dans notre mission qui était d'ailleurs un des objectifs sociaux environnementaux. On avait quelque chose sur la sobriété et qu'on avait mis pour se mettre en tension, mais qui finalement... La sobriété environnementale, on n'avait pas trop réfléchi au sujet dans notre métier d'origine, l'aide à domicile ou dans la formation. Et donc, voilà. Donc, en fait, on a lancé un nouveau projet pour vraiment qu'on travaille sur tous les objectifs. Et deuxième projet génial et enthousiasmant, c'est qu'on a eu l'occasion de prendre la plume, de publier avec Thibaut et Clément, qui ont cofondé à l'Envie avec moi, la Société du Lien, qui nous a permis de communiquer largement notre plaidoyer sur la nécessité de structurer le secteur du prendre soin, de valoriser les professionnels du care, changer la manière dont on forme dans ce secteur, et puis pourquoi pas dans d'autres. Donc ça a été quelque chose de passionnant, et la mission nous permet de faire ça, parce que alors c'est, je le dis un peu en blaguant, mais en fait c'est vrai, c'est-à-dire que comme on a mis dans notre mission le fait qu'on voulait faire changer notre secteur, et qu'on voulait même partager nos idées, éventuellement nos solutions, le fait d'écrire un livre, ce qui aussi est une grosse source de plaisir et d'enthousiasme pour nous, on ne se dit pas qu'on se défocus de notre activité, parce que ça fait partie pleinement de la mission. Et donc on peut librement donner aussi libre cours à notre envie de vraiment faire changer le secteur, et peut-être même d'autres après, tout en restant aligné avec nos investisseurs, nos parties prenantes, qui comprennent très bien pourquoi on fait ça. Et puis, en plus, ça nous crée des opportunités pour développer du business, donc c'est parfait.
Parce que c'est l'ouvrage que je recommande, d'ailleurs, c'est pas ton premier d'ailleurs, mais là il est co-écrit. C'est vrai qu'il est assez intéressant, parce que c'est un mélange du témoignage d'Alenvie et ce côté plaidoyer dont on avait parlé l'an dernier aussi, qui est une activité qui est pas forcément facile à mettre en avant dans le cadre d'une entreprise, parce que ça prend du temps sur la partie business. Mais là, c'est vrai que comme c'est incorporé dans la mission, c'est plus facile aussi, de justifier auprès de soi-même le temps qu'on passe là-dessus, et auprès des actionnaires, de dire ça fait partie de notre activité de changer le secteur, de participer à cette activité de plaidoyer. Donc j'imagine que tout ça crée un cercle vertueux finalement.
Mais voilà, là je devrais être en train de faire ma compta, mais en fait je suis avec toi à partager des retours d'expérience sur la société à mission dans le secteur. Et j'ai pas mauvaise conscience en me disant que je suis pas au travail. Voilà.
Si on rentre un petit peu dans la technique de la société à mission, y a deux aspects dont on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement. C'est le comité de mission et l'OTI. Alors l'OTI, c'est l'organisme tiers indépendant, donc c'est l'organisme qui fait l'audit de la mission. Peut-être, est-ce que tu peux nous parler du comité de mission? Parce qu'on en avait un peu parlé déjà l'an dernier, tu avais pas mal de réflexions, et je sais que depuis un an, ces réflexions se sont poursuivies, il y a des actions qui ont été menées à ce niveau-là.
Effectivement, beaucoup d'entreprises sont très contentes d'annoncer qu'elles deviennent société à mission, mais les ennuis commencent vraiment à ce moment-là. Je dis ça évidemment sur le ton de la boutade, mais effectivement le comité de mission, j'ai découvert que c'était quelque chose d'assez complexe, alors que je ne m'y attendais pas forcément d'ailleurs. Et donc nous, notre premier réflexe, un peu comme beaucoup d'entreprises que j'observe, ça a été de se dire, il faut qu'on ait des représentants de toutes les parties prenantes dans notre comité de mission. Je ne sais pas pourquoi, mais on avait ce schéma mental préinscrit, et donc on ne s'est pas trop posé de questions, on a fait ça, et donc on a constitué un comité de mission, finalement avec il y avait au moins 8 ou 9 personnes, où il y avait une ancienne aidante familiale qui était aussi médecin, alors elle cochait deux parties prenantes, c'est pratique. Il y avait représentant d'une association d'aide aux aidants, il y avait un actionnaire, c'est quand même pas oublié, c'est aussi une partie prenante, il y avait même un chercheur en management, il y avait l'ancien directeur général des petits frères des pauvres, qui est un spécialiste de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Donc on avait vraiment un superbe panel avec des personnalités géniales. Mais on en a vu aussi, on a vu que c'était pas si simple de faire fonctionner un comité de la sorte pour nous en tous les cas. Les écueils dans lesquels je pense qu'on est un peu tombé, c'est que toutes ces personnes étaient géniales, mais chacun avait pas forcément une connaissance approfondie de l'activité d'Alenvie, dans ces déclinaisons opérationnelles, tout simplement parce que ils ont plein d'autres activités et qui sont pas payés pour lire des rapports, venir chez Alenvie, comprendre tout notre fonctionnement. Donc ils étaient du coup parfois limités dans leur capacité à challenger vraiment les choix business, et en plus c'est des gens qui avaient chacun un métier, je vous ai décrit un peu les profils, très différents. Vous mettez un chercheur en management, un ancien directeur d'association, une médecin, quelqu'un qui est un travailleur social autour d'une table, et vous leur demandez de parler business, chacun a son cadre de référence, c'est normal, donc c'est pas si simple de les faire, de créer une intelligence collective avec des profils différents. Et enfin aussi, l'engagement, alors nous, on a eu la chance, c'est des gens qui étaient très engagés, qui sont venus et tout, mais j'observe aussi en étant membre de comité de mission que engager dans la durée des gens dans un comité de mission, c'est pas si simple. La question aussi, si les gens sont extérieurs au business, eh bien la question qui se pose, c'est aussi celle de leur rémunération. Parce que si vous demandez à des gens d'être là 4 fois par an, de bosser les dossiers entre-temps et tout, s'ils ont d'autres activités, comment vous assurez qu'ils sont engagés ? Donc nous, ça s'est un peu transformé en une chambre d'enregistrement de reporting extra-financier.
D'accord.
Ce qui est, je pense, le biais possible de beaucoup de comités de mission.
Ouais.
Et l'autre écueil qu'on avait, qui était un peu dommage, c'est que nous, on a des fonds d'investissement impact qui, en fait, nous challenge beaucoup sur la mission, sur l'extra-financier. Et finalement, ils n'étaient pas dans le comité de mission. Donc, on se retrouvait à faire aussi un peu des doubles discussions parce qu'on discute aussi mission et impact avec nos fonds dans notre comité stratégique d'investisseurs. Donc, après un an à avoir fait fonctionner, et après, là, je mets les écueils, mais on a quand même eu plein de discussions super intéressantes et tout. Hein. C'est juste pour mettre le focus sur les difficultés. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on a décidé, c'est de faire un comité de mission qui soit beaucoup plus proche du business. En fait, c'est un élargissement de notre comité d'investisseurs. Donc, on a notre comité stratégique avec les investisseurs, les cofondateurs. Et on a invité en plus des salariés, le premier membre de notre réseau à mission type franchise. Et puis le co-investisseur dans le projet Bien Commun qui est réalisé en co-investissement avec un nouveau fonds, le projet d'habitat partagé. Voilà, ce qui fait qu'il y a une vision d'impact très forte et avec un prisme particulier sur notamment le développement dans la France pas trop urbanisée, on va dire. Et donc, c'est très intéressant et ça permet vraiment en tout cas, l'objectif pour 2022, c'est de plus incorporer, comme la mission en plus chez nous était très incorporée dans le business, de vraiment pouvoir se faire challenger sur la mission et l'activité en même temps, parce que les deux vont ensemble, par des gens qui, du coup, pratiquent, sont proches de nous au quotidien. Hein, on va faire à l'envi toutes les semaines et donc savent très bien comment on travaille, etc. Et donc, ils peuvent avoir vraiment un avis sur des choix business qu'on peut faire ou pas faire.
Donc là, si je résume, premier problème identifié, c'était la composition qui était... L'idée, c'était de cocher un petit peu toutes nos parties prenantes. Il faut qu'on ait un représentant de chacune des parties prenantes. Bien sur le papier, mais difficile à réunir. Et ensuite, l'animation de ce comité de mission avec des personnes qui sont assez éloignées du quotidien, finalement, de l'entreprise et qui se réunissent 4 fois par an et qui découvrent un petit peu ce qui s'est passé depuis 3 mois dans l'entreprise et doivent réagir un peu à chaud sur ce qu'ils peuvent mener. C'est vrai que ça, c'est je me souviens, il y a quelques temps, j'avais essayé de réfléchir à cette question de l'intérêt du comité de mission qui pouvait soit être une chambre d'enregistrement, soit un organe stratégique. Et ça peut, même si les bonnes intentions sont là au départ, devenir une chambre d'enregistrement, alors que c'est pas l'idée. Mais ça peut le devenir. Donc, en tout cas, là, l'objectif, c'est de transformer un petit peu le comité de mission pour le rapprocher des investisseurs aussi et du quotidien de l'entreprise, si je comprends bien.
Exactement. Et comme on a la chance d'avoir des investisseurs qui clairement sont là pour produire de l'impact extra-financier, tout en visant une rentabilité, hein, mais qui sont quand même très alignés, on n'a pas besoin de créer un contre-pouvoir au pouvoir des investisseurs. C'est pas tellement l'enjeu chez nous. L'enjeu, c'est plus de faire d'intelligence collective avec les bonnes personnes autour de la table pour faire les bons choix au service de la mission.
D'accord. Et autre aspect aussi intéressant, qui est vraiment très très lié à la société à mission, c'est le fameux OTI, donc l'organisme tiers indépendant. Donc juste pour rappel, l'idée, c'est que de temps en temps, quand même, la mission doit être contrôlée, vérifiée, et donc ça se fait par un OTI. Tu me disais, tu voyais ça au départ, toi, un peu comme une contrainte. Et finalement, c'est pas révélé comme une contrainte.
Effectivement, moi j'en avais assez peur. J'avais l'impression qu'on allait devoir me mettre une sorte de cadre avec plein de choses à mesurer sur mon activité telle qu'elle est pilotée aujourd'hui, et que ça allait être artificiel et que j'allais devoir faire une forme d'exercice de formalisation qui ne m'apporte pas et qui soit juste là pour pouvoir avoir le tampon de l'OTI. C'était un peu mon préjugé. Et en fait, ça a été un exercice très intéressant. J'ai notamment... ça a été un exercice en fait qui nous a formés sur des concepts qui vont nous aider pour la suite. Moi, ça m'a fait prendre conscience d'une chose assez basique, mais que je ne m'étais pas formalisé comme ça, c'est de dire finalement comment on apporte la preuve qu'on fait vraiment des choses au service de sa mission quand on est une société à mission. Et dans ma tête, c'était un peu confus, cette notion de preuve. Souvent, j'utilisais le mot impact. Donc je me disais, voilà, c'est la mesure d'impact qui apporte des preuves. Et dans impact, je mettais un peu un gros fourre-tout de tout ce qui était extra-financier. Et notre OTI nous a apporté un cadre conceptuel qui est assez simple, qui permet de distinguer trois choses au service de la preuve. C'est les moyens qu'on a mis en œuvre, des résultats qu'on a obtenus sur des objectifs opérationnels qu'on avait pu se fixer, et enfin l'impact qu'on a généré, c'est-à-dire un changement réellement provoqué sur une partie prenante. Je trouve que quand on travaille sur ces objectifs, déjà en amont, quand on devient société à mission, ou ensuite quand on travaille en continu, avoir ces trois prismes et se dire, voilà, j'ai tel objectif statutaire, donc je vais décliner des objectifs opérationnels, et ensuite, il faut, quand mon ETI va venir, il faut que je sois capable de le prouver, donc soit par des moyens que j'ai mis en œuvre. Il faut pas se dire qu'il faut systématiquement que des résultats atteignables. On peut aussi prouver qu'on a travaillé au service d'un objectif par des moyens, et dans notre cas, c'est très prégnant, parce que par exemple, quand on fait du plaidoyer, je suis pas forcément capable de dire j'ai fait changer ça, par contre je suis capable de dire j'ai écrit un livre, j'ai fait ça, j'ai fait telle action. Et donc ça peut être des moyens, mais ensuite il faut pas que, s'il y a que des moyens, c'est un peu bizarre, donc il faut aussi qu'il y ait des résultats obtenus, et limite on peut s'arrêter là. Déjà, si on fait ça, on n'a toujours pas utilisé le mot impact, et on a prouvé qu'on exécutait sa mission, enfin qu'on travaillait vraiment au service de la mission. Et après, on peut aussi évidemment réussir à avoir des mesures de l'impact qu'on génère. Nous, par exemple, on a créé un indicateur qui s'appelle l'indice d'alignement humain, qu'on utilise chez nous et qu'on a développé dans d'autres structures du secteur. Donc c'est très intéressant, ça permet de voir vraiment sur le ressenti des salariés l'impact d'une approche justement systémique sur tout le cadre de travail, via l'organisation, via la formation, etc. Mais ça, c'est super, c'est encore un autre élément de preuve, mais il ne faut pas commencer par là. C'est-à-dire que je pense qu'un biais peut être de vouloir faire que de la mesure d'impact et pas faire le travail de lister les moyens et les résultats qu'on met en œuvre. Donc je trouve vraiment que cette grille moyens-résultats-impact, elle est éclairante pour savoir comment on travaille au service de sa mission et du coup après faciliter le travail de l'OTI qui va venir vérifier, et aussi d'ailleurs le travail du comité de mission. Donc, je pense aussi que le comité de mission, il faut avoir cette distinction moyen, résultat, impact toujours en tête. Enfin, en tout cas, nous, ça nous aide beaucoup.
Non, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui s'intéressent à la société à mission et qui se disent « Oui, mais après, il y a un OTI qui va arriver, qui va contrôler, il me faut des preuves d'impact, de résultats, etc. » Et là, ce que tu dis, c'est que il faut, l'impact, c'est pas une nécessité absolue. Il y a déjà mettre en place pas mal d'actions qui montrent qu'on a mis les moyens au service de sa mission. Il y a des résultats, a priori, si on met des moyens, il vaut mieux qu'il y ait des résultats, mais la notion d'impact n'est pas forcément celle qui prédomine dans l'évaluation de l'OTI.
La notion d'impact telle qu'on vient de la définir, c'est comme vraiment preuve de changement sur une partie prenante, et d'ailleurs, ce cadre-là, il m'a fait penser au cadre de la théorie du changement, pour ceux qui connaissent, qui a été développé par Ashoka, qui est beaucoup utilisé pour mapper des projets sociaux. Donc ça converge, donc ça veut dire que sans doute que c'est un bon cadre, parce qu'il y a plusieurs personnes qui, par des points de départ différents, sont arrivées au même, la même idée qu'il fallait pouvoir distinguer moyens mis en œuvre, résultats obtenus et impact généré. Donc non, il ne faut pas se limiter à la mesure d'impact. Après, nous, on a eu la chance de choisir la bonne ETI. C'est une profession
aussi,
réglementée, je crois qu'on n'a pas le droit de faire de publicité, mais effectivement, aujourd'hui, les OTI, c'est démarre tout juste, donc chacun, il y a des doctrines différentes qui peuvent s'exprimer au sein d'OTI, donc il faut, je pense, bien choisir, bien discuter avec son OTI pour voir comment il envisage les choses.
Et est-ce que tu as l'impression que ce travail d'audit a fait évoluer certains objectifs, éventuellement des objectifs opérationnels, a permis de clarifier certaines choses dans la mission, dans la structuration de la mission?
Bah ça, c'est un peu notre travail maintenant, parce que le rapport a été remis il y a quelques semaines. Et en fait, clairement, nous, là où on pêche, c'est comme notre mission est imbriquée, finalement, beaucoup de choses qu'on fait sont au service de la mission, mais on n'a pas forcément défini on a beaucoup d'indicateurs, mais avoir des objectifs clairs. Par exemple, on a, nous, un objectif qui est statutaire, qui est de d'améliorer les conditions de travail des salariés. On en a un autre qui est de rendre nos services accessibles. Donc, on suit des indicateurs sur les conditions de travail, sur l'accessibilité des services, parce qu'on a un tarif social, donc on mesure le pourcentage de bénéficiaires au tarif social. Là où on a du mal encore, c'est à se fixer des objectifs quanti sur ces sujets où nous, on est plus dans une logique où on maximise les moyens et puis on essaie de faire du mieux qu'on peut. C'est quand même un peu multi-contrainte. Je pense que là, on peut progresser et peut-être se challenger encore plus, se mettre en tension en se fixant plus des objectifs. Et on a aussi un enjeu sur justement l'activité bien commun, d'avoir des vrais objectifs mesurables sur les aspects dont je parlais, environnementaux, etc.
Il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué sur les principales actions, et c'est vrai que ça m'a marqué quand on a parlé il y a déjà un bon moment maintenant, c'est l'idée de la création d'un premier réseau à mission. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est
Alors pour l'instant c'est à l'Envi, une structure d'aide à domicile basée à Paris, et on a maintenant à l'Envi Fontainebleau, qui est une structure indépendante, qui n'a aucun lien capitalistique avec nous, mais qui utilise notre marque, et le contrat qu'on a fait, c'est un contrat de licence de marque, mais où la contrepartie au fait d'utiliser notre marque, c'est le fait de s'engager à mettre dans les statuts de la structure notre raison d'être et nos objectifs, donc notre mission, et à suivre avec nous la mission au sein de l'autre entreprise, donc de cette autre entreprise d'aide à domicile. Et avec des moyens qu'on donne, qui sont nos outils de formation, nos outils de collaboration, toutes nos bonnes pratiques. Donc l'idée, c'est pas un contrat de franchise, c'est pas de se fédérer avec un savoir-faire commercial qu'on partagerait, mais avec une mission qu'on veut pousser, atteindre, et de se challenger entre membres du réseau sur l'atteinte de cette mission en partageant les mêmes indicateurs, les mêmes objectifs. Après, on aura des réalités différentes, donc on ne sera pas tous au même stade selon les sujets de conditions de travail, d'accessibilité. Mais l'idée, c'est de se challenger mutuellement. Alors pour l'instant, on est deux, on attend. Donc ça a très bien démarré. Après, on se rend compte que c'est aussi beaucoup de travail à mettre en œuvre, donc ça prend du temps à constituer, mais on a des super échanges, en tout cas, ça nous fait progresser. Et puis, en tout cas, par nature, on ne le développe pas. Alors, beaucoup de gens, nos investisseurs notamment, nous demandent combien vous voulez avoir de membres dans le réseau dans un an, etc. Et pour l'instant, on s'empêche d'avoir une approche déterministe là-dessus, parce qu'on considère que c'est un réseau qui doit se grandir par adhésion, quoi. Donc, on attend un peu que d'autres nous rejoignent parce qu'ils adhèrent à la mission. Mais on va voir. C'est une expérience, en tout cas, très intéressante et qui nous enrichit beaucoup, je pense, nous comme à l'Envi Fontainebleau, Antoine et Christelle qui nous ont rejoints.
C'est intéressant cette logique, effectivement, et puis de mettre à chaque fois la mission au cœur de toutes les activités qui peuvent être menées.
Mais je pense que la mission est un concept juridique qui peut être exploité de plein de manières différentes. Donc le fait de se dire on peut associer des entreprises, effectivement, pas par le capital, pas par des contrats déjà très, très établis avec une manière de fonctionner très claire comme la franchise, mais par peut-être autre chose liée à la mission, c'est vraiment un terrain d'expérimentation intéressant.
Si on regarde un petit peu l'impact de la mission sur la stratégie, le développement de l'entreprise, il y a un premier point dont on a un petit peu parlé, c'est que visiblement la mission est présente dans toutes les questions que vous pouvez avoir en interne sur le repositionnement, vers où on veut aller, etc. Est-ce que tu peux donner un exemple du type de questionnement que vous pouvez avoir et la place que la mission peut prendre dans ces discussions?
Oui, alors en 2021, on a beaucoup travaillé sur une plateforme d'e-learning qu'on a lancée au sein de Compagnie, notre organisme de formation. Et on a une équipe technique en interne qui a développé cette plateforme, et on avait notamment des réunions sur comment monétiser cette application. Il y a beaucoup de contenu gratuit dessus, mais en même temps, il faut quand même qu'on ait un modèle économique pour justifier son existence. Et ce qui m'a frappé, c'est que Sophie, qui est notre CTO, est venue à une de ces réunions en citant la raison d'être. La réunion a commencé, elle n'a pas parlé de points techniques, elle n'a pas parlé de KPI, elle a juste cité la raison d'être d'Alenvi et compagnie, et pour dire, voilà, est-ce que les choix qu'on fait sont conformes à cette raison d'être. Donc ça, c'est une anecdote qui est un signe fort pour moi d'appropriation de la mission qui est pas forcément mesurable au travers des preuves, des moyens, résultats et impacts dont on parlait, qui est quelque chose presque de culturel qui se diffuse dans l'organisation et qui est très puissant parce que ça peut infuser toutes les décisions en fait du quotidien. Mmh. Et la grande question, c'est peut-être comment on mesure effectivement cette appropriation culturelle de la mission dans une entreprise.
Et ça, tu as l'impression, globalement, alors c'est une anecdote, mais tu as l'impression que vous arrivez bien à diffuser justement cette mission un peu partout dans les équipes?
Oui, après, chez nous, elle se décline un peu différemment selon la... C'est-à-dire que typiquement, la raison d'être, elle va être citée par notre CTO, par les gens qui font de l'ingénierie pédagogique, par les gens qui sont plutôt dans notre activité B2B formation, qui sont plutôt des profils cadres. Chez les auxiliaires de vie... on a une déclinaison, c'est pas la raison d'être, mais on a la charte d'envie qui est quelque chose qu'on a créé d'ailleurs avant même d'être société à mission, qui a un peu une liste de principes de fonctionnement qui sert dans le quotidien, et c'est plus le cadre de référence, c'est va être plus la charte d'envie. Mais en fait, la charte d'envie a des liens très forts avec la raison d'être, mais voilà, on peut aussi avoir des déclinaisons. Je pense qu'il faut pas être obsédé par le fait que tout le monde ait une phrase en tête. Voilà, c'est pas non plus une secte ou un... Enfin, je suis un peu caricatural, mais voilà, je pense que ça peut se décliner aussi. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on a globalement un niveau d'appropriation qui est intéressant. Après, on n'est jamais arrivé, c'est un chemin et ça pourrait être bien mieux. Hein,
Non, mais c'est intéressant, en fait, cette déclinaison, parce que beaucoup d'entreprises se disent, mais comment est-ce que je vais arriver à embarquer le maximum de personnes avec une phrase qui peut paraître un peu aérienne, un peu lointaine du quotidien.
Quand c'est une page complète, comme certaines raisons d'être, je ne sais pas comment...
c'est compliqué. Donc là, effectivement, se dire, bah, il y a certaines personnes qui vont très bien se l'approprier telle qu'elle. Et après, des personnes qui sont peut-être plus éloignées, notamment du siège, en gros, créons un document, en l'occurrence la charte, qui reflète la mission, la raison d'être, les différents objectifs. Et comme ça, les gens s'approprient cette charte qui finalement est le reflet de la mission. Donc c'est intéressant comme démarche, parce que pour avoir discuté avec d'autres entreprises, il y en a qui se posent la question de se dire mais c'est trop lointain en fait de leurs préoccupations quotidiennes. Mmh. Très bien. On en arrive à l'avant-dernière question peut-être. Qui concerne, on en a un tout petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu peut-être sur la difficulté rencontrée avec le comité de mission, et de se dire, toi aujourd'hui, là tu te dis bon, bah on a restructuré le comité de mission, on a retravaillé les membres, etc. Dans un an, à quoi est-ce que tu veux que ton comité de mission te serve, et qu'est-ce qui pourrait te faire dire bah là j'ai réussi là où il y avait une difficulté il y a un an?
Bah, qu'il influe des décisions stratégiques, quoi. Donc ce comité de mission, il va peut-être nous pousser, par exemple, je vais donner un exemple que j'ai en tête. Quand on fait de l'habitat partagé, on a la volonté d'avoir un impact écologique positif. Donc on réutilise du bâti existant, on fait des efforts importants pour isoler, mettre un chauffage. Voilà, en l'occurrence, on a mis une pompe à chaleur dans la première maison, on a fait passer de G à C le diagnostic thermique, des choses très tangibles. Et on pourrait faire encore mieux en allant... Il y a de l'innovation à apporter, c'est-à-dire qu'on pourrait essayer de trouver des financements pour faire encore mieux, pour être vraiment ultra mieux disant là-dessus. C'est un exemple, mais je me dis, par exemple, notre comité de mission, il pourrait nous... Après, on fait des arbitrages parce qu'on ne peut pas être partout, il faut aussi développer l'activité, les moyens sont limités, mais le comité de mission, il pourrait nous dire, ah, là-dessus, par exemple... insister là-dessus parce que je pense qu'il y a moyen d'aller imaginer un financement spécifique bancaire pour vous permettre de faire encore plus d'isolation, pour vraiment faire le truc best in class au niveau écologique, par exemple. Voilà. Donc c'est un exemple, mais on a un autre sujet qui est l'accessibilité tarifaire, notamment sur ces habitats partagés où aujourd'hui ils ne sont pas ouverts à tout le monde parce que les gens ne sont pas forcément assez solvabilisés pour aller dans ce type de lieu. Donc, ça peut aussi nous titiller pour dire, mais imaginez des solutions pour leur permettre d'accueillir tous les publics dans ces lieux. Ça, c'est déjà un peu le cas. C'est un sujet assez récurrent sur lequel on est pas mal challengé par notre comité de mission en général, enfin, nos investisseurs en général, mais du coup, qui sont dans le comité de mission. Donc, voilà, c'est que derrière, on est agi suite à des retours de ce comité, à des discussions qu'on peut avoir. Et ça va au-delà de juste être challengé. C'est pourquoi parfois trouver des solutions. Parce que ce qui est intéressant dans ce genre de discussion, c'est que parfois il y a des gens autour de la table qui ont des idées, des contacts qui peuvent amener à la solution.
Très bien. Et dernière question, quelles sont les actions à venir que tu vois en lien avec la mission plus particulièrement?
Bah là, à l'heure où on se parle, on est en plein dans les suites de la crise du scandale Orpea. Donc, ce qui est assez fascinant, c'est que nous, ça fait 18 mois qu'on, dans notre plaidoyer, on dit que tout le secteur du grand âge devrait passer société à mission. Que maintenant, la Fédération des EHPAD privés, la ministre de tutelle et certains investisseurs dans les grands groupes d'EHPAD disent la même chose. Donc, c'est assez intéressant de voir que cette idée, le temps de cette idée est enfin venu. Et donc, on voit, nous, le potentiel qu'on a, comme on a poussé cette idée, je pense qu'on a une certaine légitimité. On est aussi historiquement la première société à mission du secteur. Ben, on voit qu'on a un rôle à jouer pour accompagner cette tendance. Et je trouve ça assez fascinant de se dire que même quand on est une entreprise de taille modeste, on peut avoir un impact à l'échelle de tout un secteur. Et je suis assez inspiré à ce niveau-là par Julia Chapon, la fondatrice de Yuka, j'ai entendu récemment dans un podcast où elle expliquait qu'elle ne voulait pas faire grossir forcément son entreprise de manière démesurée, que ce n'était pas son objectif, mais par contre, elle mesurait son succès à des annonces, comme quand une chaîne de supermarché annonce qu'elle bannit tel type de conservateur de toutes les charcuteries qu'elle vend, bah, c'est là où elle mesure son succès. Donc nous, une des réflexions aussi qu'on a d'ailleurs avec notre comité de mission, c'est comment on mesure encore mieux cet impact, parce que si tout le secteur passe société à mission, je ne dis pas que c'est que grâce à nous, mais je pense qu'on aura joué un rôle là-dedans. Et donc, il faut qu'on arrive à mesurer aussi cet impact, parce que je pense que les parties prenantes qui nous soutiennent, que ce soit des investisseurs, des salariés, des partenaires, c'est intéressant pour eux de voir que ça sert à ça quand ils travaillent avec nous. Ça a tout cet impact-là, quoi.
Parfait. Alors, comme pour chaque missive, je finis avec un petit coup de cœur musical. Je te pose la question, c'est quoi ton petit coup de cœur musical du moment?
Alors, je t'ai proposé, c'est un peu moins rock que les sélections de la machine à sens habituelle. C'est les Frangines, c'est Notre-Dame. Alors, c'est pas pour faire du prosélytisme religieux, mais c'est une chanson qui me touche pas mal. Elle parlait de l'incendie de Notre-Dame et ensuite elles disent qu'on a tous une cathédrale à rebâtir, qu'on a tous en nous le bien et le mal. Donc je cherchais aussi un lien avec la mission et je trouve que la cathédrale est une belle allégorie de la mission. Il y a la fameuse histoire, vous savez, où il y a des gens qui cassent les pierres et d'autres qui construisent des cathédrales. Et je pense que tous dans notre travail, parfois, on casse des pierres et la mission peut nous aider à comprendre qu'en fait, on peut construire des cathédrales. Et on a la chance d'habiter Paris où on passe quand même, pour certains, tous les jours devant ce bâtiment. Et quand on imagine, il y a plusieurs centaines d'années, enfin même presque un millénaire, ce que construisaient les gens avec très peu de moyens techniques, je me dis qu'aujourd'hui on peut viser haut et faire des choses à la fois belles et qui ont du sens.
Formidable. En tout cas, merci beaucoup Guillaume. Et puis bon courage dans toutes ces différentes démarches. Effectivement, le secteur est en plein changement et j'espère qu'à l'envie pourra jouer pleinement son rôle.
Merci Vivien.
Merci à toutes et à tous de votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode de La Machine à Sens vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une petite faveur à vous demander. C'est de me donner quelques étoiles, ça monte jusqu'à 5 sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Bizarrement, sur Spotify, ça ne marche que sur smartphone. C'est vraiment important pour améliorer le référencement et que d'autres puissent découvrir le podcast. Donc s'il vous plaît, je vous remercie de le faire. Pour ne rien rater des prochains épisodes, le mieux, c'est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et si vous avez envie d'échanger sur le sujet des entreprises à mission, éventuellement vous faire accompagner pour le devenir, vous pouvez me retrouver sur la newsletter de la Machine à Sens, machineasens.substack.com ou sur LinkedIn. Je vous remercie de nouveau et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.